Radio Stardust.
Morning edition from NPR
News.
Radio News and the people
que se reproduce que en la radio.
France Inter, le 18-20.
On a fait le Ruin Bar, le Mesda Bar aussi, et le Castro Bar.
Pas bon.
Il va falloir couper, hein.
Et ouais, ça se passe à Budapest et c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Budapest, capitale des fêtards européens désormais, qui déferlent par centaines dans un quartier. En particulier, imaginez les riverains et vous allez les entendre, ils vont voter ce week-end. Sous les radars, et Florence Poacolos d'abord ici. En Colombie, ce que vous entendez, ce sont des Colombiens qui ne veulent plus accueillir les Vénézuéliens qui fuient Maduro et la crise. Un chanteur de la junte thaïlandaise aussi ce soir et un républicain américain renié par sa famille. 18h50, le cinéma en VO, c'est Eva Bétan qui a vu Phantom Thread de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis. Et puis un film palestinien à retenir aussi, Wajib, et elle vous racontera à 18h55. Jean-Marc Four met le monde à l'envers à l'occasion de la conférence sur la reconstruction du pays en se demandant finalement si ça sert à quelque chose de reconstruire l'Irak. Mais avant, nous allons en Italie qui vote dans quasiment 15 jours et qui semble hésiter aujourd'hui entre deux populismes. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'élection russe à venir, qui est d'ailleurs courue d'avance, mais il y en a une autre finalement, qui est beaucoup plus près de nous et qui nous intéresse, nous au premier chef, nous les Européens. Ce sont ces élections italiennes du 4 mars, à peine plus de deux semaines donc. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le fameux retour de Silvio Berlusconi, on y reviendra, l'état du centre-gauche, mais à peine plus de deux semaines, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui plombe la campagne, la fusillade de Macerata et puis ses suites surtout. Bonsoir Marc Lazare.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du centre d'histoire à Sciences Po, professeur des universités en histoire et sociologie politique à Sciences Po. On va revenir très très vite sur ce qui s'est passé avant d'essayer de comprendre comment ça impacte sur la campagne électorale. Une jeune fille assassinée, donc son corps retrouvé coupé en morceaux, trois Nigérians qui sont arrêtés, puis derrière, une fusillade, un homme d'extrême droite qui tire à l'aveugle sur un groupe d'une dizaine d'Africains, sur des Africains, et des manifestations qui s'en suivent. C'est l'événement, Marc Lazare, vous disiez, qui dessine ou redessine la campagne électorale aujourd'hui.
La question des migrants était déjà présente à l'agenda politique. Derrière, au départ, la question de l'emploi, des inégalités économiques et de la pauvreté qui ont frappé l'Italie depuis des années, après notamment 4 années de récession. Et aussi une exigence de la part des Italiens de faire baisser les impôts. Et en troisième point, troisième préoccupation, troisième enjeu, il y avait la question de l'immigration d'un côté, il faut distinguer les termes, et les migrants de l'autre. L'immigration, c'est les 5 millions d'Italiens qui sont sur le sol italien, régulièrement inscrits et qui veulent rester en Italie, avec une série de problèmes qui se posent autour de ça. Et les migrants, c'est ces 600 000 migrants qui, depuis 5 ans, ont déferlé sur les côtes italiennes et qui sont en général de passage dans ce pays avant d'essayer de tenter leur chance dans des conditions souvent très difficiles dans d'autres pays européens.
Mais du coup, les préoccupations sont inversées désormais.
Je pense. On n'a pas encore des enquêtes, mais je pense que c'est en première ligne maintenant, d'autant plus qu'une partie des formations qui participent à cette compétition électorale ont décidé de s'emparer de cette question des migrants pour en faire leur ressource politique. C'était déjà le cas, mais vraiment cette fois-ci de en mettre au premier plan cette préoccupation. Il s'agit des forces de ce qu'on appelle en Italie le centre-droit, c'est-à-dire la Ligue Nord. On y reviendra peut-être. Un petit mouvement aussi d'extrême droite, Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Mais on l'oublie souvent en France aussi, le mouvement 5 étoiles.
Et on va y revenir effectivement chacun à son tour. Est-ce qu'on dit quand même, parce que les manifestations qui ont eu lieu étaient assez effrayantes, et le pédigré d'ailleurs aussi du tireur l'était, est-ce qu'il y a une forme de fascisme qui est de retour en Italie? Est-ce qu'on peut employer ce mot-là, ou est-ce que là pour le coup on va trop loin?
Incontestablement, il y a un retour de mouvements d'extrême droite et de gens qui se réclament de l'extrême droite, et parfois du fascisme, qui font de nouveau le salut romain, qui se réfèrent à Mussolini. Ça reste un phénomène minoritaire, incontestablement minoritaire. Et d'ailleurs, il y a eu des contre-manifestations de gauche, antifascistes, antiracistes, qui
donc
immédiatement
se sont organisées. Ça, c'est Casapound, par exemple. Ça, c'est cela.
Casapound, ça existe depuis des années. C'est, pour vous donner l'idée, quand ils se présentent aux élections, c'est 0,5 points. Hein. Mais, par exemple, dans le Latium, à Rome, en Vénétie, dans une partie d'Italie, c'est des jeunes très activistes et qu'on peut qualifier de fascisme.
Mais qui se revendique de quoi, pardon, Marc?
Ah ben du fascisme.
D'accord.
Il y a quand même eu 20 années de fascisme dans ce pays. Il y a eu ensuite tout un consensus antifasciste, mais vous savez, ces courants-là parfois disparaissent et puis resurgissent. Il y a des résurgences comme ça, et dans le contexte actuel, oui, il y a un renouveau. Mais attention, c'est ultra minoritaire en ce moment. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est la forme manifeste d'empathie, pour ne pas dire de sympathie, qu'ont manifesté beaucoup d'Italiens qui ne sont pas par ailleurs fascistes, mais qui ont par exemple écrit à celui qui avait commis ces attentats ignobles à Macerata ou à son avocat pour lui dire qu'ils étaient prêts à payer les honoraires pour la défense de cet homme qui avait bien fait. Donc voilà, il y a un climat effectivement de grande radicalisation politique, culturelle aussi, en Italie en ce moment.
Alors on va y revenir, je voudrais qu'on aille voir sur le terrain justement comment ça se passe au milieu de ces gens-là. On en reparle juste après, voici le reportage de Mathilde Amerti.
Suivant le mot d'ordre, l'immigration tue, deux groupes extrémistes, Casapand et Forza Nuova, chacun leur tour, ont défilé à Macerata. Salut Romain, confrontation avec les forces de l'ordre, une présence musclée. Ce qui s'est passé à Macerata est emblématique de ce qui ne va pas en Italie, selon le leader de Forza Nuova que nous avons rencontré.
Je suis Roberto Fiore, je suis le secrétaire national de Forza Nuova. Nous sommes national populaire, patriotique, avec une forte connotation sociale et chrétienne. Et nous avons déjà dit, il fait 3-4 mois, qu'il y a un grand problème dans ce pays, que c'est la mafia nigérienne. La jeune femme Pamela s'était tuée par des Nigérians. Nous avons dit qu'il y a un grand problème et que c'est un problème quand ce type de mafia commence à déborder avec des homicides italiens.
Luca Traini, il est allé tirer dans la foule. Vous dites il faut le soutenir, il faut le comprendre.
Bon, nous avons dit ça, que nous faisons de politique dure, par exemple, d'aller dans cette zone dangereuse, confronter physiquement aussi l'agent qu'il commerce avec la drogue, ce type de choses. Mais ce n'est pas aller dans une place et tuer des gens. Mais on peut dire que Luca Traini, c'est le résultat d'une politique sur l'immigration que c'était fou. C'était totalement fou.
À Macerata, une jeune Italienne a été tuée, son corps découpé en morceaux, 4 Nigérians arrêtés pour ce meurtre qu'a voulu venger un militant d'extrême droite en tirant sur des Africains. Associer migrants à délinquants est un glissement dangereux selon les associations antifascistes et les citoyens qui ont défilé à Macerata samedi dernier. Question, quel impact aura ce fait divers sordide et la fusillade qui a suivi sur les électeurs? Jusqu'ici, Casapand et Forza Nuova n'ont jamais dépassé 1% des voix. Mais l'effet de Macerata a déclenché une série de réactions très dures de la droite, en particulier de la Ligue de Matteo Salvini qui promet d'expulser les demandeurs d'asile déboutés de leurs demandes. Finalement, c'est le centre-gauche au pouvoir aujourd'hui qui aurait le plus à perdre. Matteo Renzi, secrétaire du Parti démocrate, le reconnaît.
Le rapprochement entre immigration et sécurité est naturel dans le débat politique, mais il est fait à tort selon nous. Parce qu'au moment où a été tuée Pamela, une autre jeune fille de moins de 20 ans, Jessica, l'était aussi. L'une a été tuée par un Nigérien, l'autre par un Italien. Il y a des faits criminels qui doivent être punis et il faut s'assurer qu'ils le soient. Mais l'Italie est un grand pays qui ces dernières années a fait des choses extraordinaires. Si avoir sauvé des milliers de vies en Méditerranée me coûte 1 point, 2 points, 3 points dans les sondages, je suis prêt à le refaire demain. J'aurais pu obtenir peut-être de meilleurs sondages, mais je n'aurais pas pu regarder mes enfants dans les yeux.
Les derniers sondages seront publiés vendredi après-demain et les Italiens votent le 4 mars.
Et c'est bien pour ça donc qu'on en parle avec vous. Marc Lazare, il a raison, Matteo Renzi, c'est celui qui a le plus à perdre dans cette histoire. Donc.
Incontestablement, parce que ce qui est frappant, voyez-vous, c'est pas tellement les agissements de Forza Nuova ou de Casapand, dont votre correspondante Mathilde Imberdi a bien souligné, comme moi, que c'était très minoritaire. Ce qui est préoccupant, c'est la porosité qui est en train de s'introduire entre une grande partie des forces qu'on appelle en Italie de centre-droit et ces groupuscules. C'est Silvio Berlusconi qui a déclaré qu'il y avait 600 000 personnes à expulser immédiatement.
Et qu'il fallait les dénoncer.
Les expulser. On lui a demandé, mais attendez, mais quel est le coût de cette expulsion? Comment va-t-on procéder? Il n'a pas répondu. Et que, dorénavant, les migrants étaient une bombe sociale. Alors oui, le Parti démocrate qui est actuellement au pouvoir, le parti de Matteo Renzi, est dans une position très compliquée, puisque, on l'a entendu, Matteo Renzi a adopté ce qu'on pourrait appeler une position morale en disant, voilà, je suis prêt à perdre des élections mais je ne veux pas perdre mon âme.
Je suis la seule force de gauche, en gros, c'est ça le discours de Renzi,
alors, c'est en même
de
temps,
la vraie gauche.
Oui, alors Matteo Renzi essaye de se regauchir en ce moment parce qu'il perd pas mal de voix aussi à gauche, et donc il essaye de retrouver en quelque sorte une posture. Et en même temps, c'est ce parti qui a essayé de bloquer l'arrivée des migrants avec des accords avec les autorités libyennes pour essayer de cantonner les populations potentielles de réfugiés ou de migrants en Libye dans des conditions qui ont été révélées comme étant dramatiques. Et effectivement, on a vu une diminution des flux migratoires. Donc, le Parti démocrate est dans une situation compliquée. Par exemple, il n'a pas appelé aux manifestations dans la ville de Macerata pour pas mettre de l'huile sur le feu, dit-il. Donc, d'un côté, il dit lui aussi fermeté contre l'immigration clandestine, mais en même temps, on le voit, une attitude plus ouverte. Mais si la question des migrants, il reste, comme vous l'avez dit, une quinzaine de jours jusqu'aux élections, et il faut jamais oublier que lors des précédentes élections en 2013, près de 20% des Italiens s'étaient prononcés dans les 10 derniers jours, et 13% le jour même du scrutin. Évidemment, ce qui va être déterminant dans cette campagne, c'est de savoir si cette question des migrants va être toujours au cœur de l'actualité. Et la stratégie du centre-gauche, c'est de répondre sur ces questions-là et de dire quel est l'enjeu fondamental de ces élections de 2018. Bien sûr, il y a la question des migrants, mais la question fondamentale, c'est celle de l'Europe. Parce que c'est ça ce qui se pose. Est-ce que l'Italie va adopter, va prendre, va donner la majorité absolue, pas simplement des voix, mais des sièges au centre-droit actuel, qui est sur une position d'éloignement, de critique de l'Union européenne, ou est-ce qu'il va y avoir un gouvernement qui continuera à participer à la construction européenne? Et c'est pour ça que vous aviez raison, si je peux me permettre, en début d'émission, de dire que effectivement les Européens suivent avec la plus grande attention ce qui va se passer le 4 mars en Italie, parce que le résultat de cette élection va impacter non seulement la péninsule italienne, mais l'ensemble de l'Union européenne.
Mais est-ce que vous disiez que toutes ces histoires de migrants, c'était très poreux aussi pour le mouvement 5 étoiles? Comment il s'approprie cette affaire-là, le mouvement 5 étoiles?
Parce que le mouvement 5 étoiles n'est pas un populisme de gauche. Parce que le mouvement 5 étoiles est un populisme très original, inclassable dans la cartographie des populismes européens que nous avons. Il est inclassable parce qu'il a des propositions de gauche classique, augmentation des revenus les plus bas, de gauche post-moderne, une sorte de revenu universel à la Benoît
Hamon. Que Berlusconi propose aussi subitement.
Oui, mais ça, voilà. Berlusconi, il peut vous vendre, comme on dit en Italie, le Colisée pour un euro. Hein, il n'y a aucun problème avec Berlusconi. Donc il n'y a aucun problème à cet égard. Mais le mouvement 5 étoiles a ses propositions, disons gauche, gauche post-moderne, écologie, et des propositions très dure sur la question de l'immigration. Il a toujours dénoncé ce qu'il appelle le business des migrants. Et il a des positions très fermes contre l'immigration clandestine. Et c'est ce qui est une des raisons de son succès. Parce qu'il s'adresse à différentes populations de gauche, de droite ou d'électeurs qui s'abstenaient. Je vous fais remarquer qu'il est à 29-30% actuellement dans les intentions de vote. C'est-à-dire, si ça se confirme le 4 mars, le mouvement 5 étoiles serait le premier parti en Italie.
Mais sans alliance, en revanche, tout seul.
Voilà. Mais sans alliance, ça, c'est la grande transformation qu'est en train d'instaurer son nouveau dirigeant. Hein, Beppe Grillo a pris du recul. Et le nouveau dirigeant, 31 ans, Luigi Di Maio, lui, justement, essaye de trouver des alliés. C'est une rupture dans l'histoire du mouvement 5 étoiles parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner seul et il propose des alliances. Et ça, c'est le scénario possible, noir.
Je vais dire catastrophe ou pas. Enfin, voilà.
Voilà, c'est le mouvement 5 étoiles, 30%. La Ligue Nord, qui est une formation qui est sur le modèle non plus d'un populisme régionaliste, mais d'un populisme nationaliste inspiré par Marine Le Pen, et encore plus à droite que Marine Le Pen, plus une partie de la coalition de la gauche de la gauche, je dis bien une partie de la coalition de la gauche de la gauche, qui se rassemblait sous l'étiquette libéraux et égaux, qui dit l'ennemi principal aujourd'hui, c'est l'Europe, il faut sortir de l'euro, et un gouvernement qui serait composé par ces trois formations, si elle a des majorités parlementaires, ça semble impossible pour le moment, impossible, n'est pas français et peut-être pas italien.
Libéraux et égaux, c'est Pietro Grasso, c'est ça, l'ancien juge, qui prend des voix à Renzi. Mais est-ce que Renzi n'a pas une chance de récupérer les transfuges de la gauche, en fait, ceux qui ne peuvent pas se reconnaître dans cette espèce d'alliance du carpe et du lapin entre le mouvement 5 étoiles et la droite?
C'est ce qu'il essaye de jouer. Effectivement, c'est ce qu'il essaye de montrer. Je suis le seul pro-européen, je suis finalement le responsable d'une gauche moderne. Je suis aussi, et sa déclaration était très intéressante, qui a été rappelée par votre correspondante, je suis aussi la gauche morale. Alors, lui-même a été très critiqué quand il était président du Conseil, a provoqué une détestation. Cet homme, c'est frappant quand on connaît un peu l'Italie, détesté par la droite, par le mouvement 5 étoiles et une partie de la gauche, considérant que c'était un traître à la gauche. Et il est en train d'essayer de se reconfigurer une position de quelqu'un d'une gauche responsable, humaine, morale, éthique, pour essayer de récupérer des voix. Oui, vous avez tout à fait raison. Il essaye de jouer cela et il pense qu'en jouant une carte d'un antifascisme pas radical mais ferme, il pourra essayer de rassembler l'ensemble des électeurs du centre-gauche qui jusqu'ici étaient tentés par l'abstention, voire par le vote pour la gauche de la gauche.
Qu'est-ce qu'est-ce qu'on dit de Berlusconi, Marc Lazare, dont on sait qu'il ne peut pas être candidat, enfin, il a des casseroles qui traînent partout, mais la figure tutélaire, vraisemblablement, continue à fonctionner. Ce qui, pour nous, de notre côté des Alpes, est complètement hallucinant, mais visiblement pas en Italie.
Oui, alors attention, hein, c'est plus le Berlusconi, si j'ose dire, flamboyant, baroque des années 90, c'est plus bunga-bunga avec Berlusconi.
Non, c'est juste parce qu'il a vieilli.
Non, mais pas simplement. Lui, il vous dirait qu'il n'a pas vieilli, qu'il est toujours en forme.
Ah, hein,
mais si on met de côté ces plaisanteries, actuellement, les intentions de vote de Berlusconi, c'est 18%. Alors, il se présente comme le sage, comme celui qui est le sauveur de la patrie. Mais si Forza Italia, son parti, a 18%, c'est le plus mauvais résultat de la formation, de cette formation depuis 1994. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce qu'espère Silvio Berlusconi, c'est-à-dire d'être l'homme qui va organiser le futur gouvernement, même s'il ne pourra pas y être, l'homme qui éventuellement pourrait même faire un compromis avec le Parti démocrate pour essayer de faire une sorte de grande coalition finalement qui rassurerait les milieux financiers et qui, entre parenthèses, lui permettrait de régler ses propres affaires. Je pense, moi, mais je serai peut-être démenti ou ce sera confirmé le 4 mars, qu'il ne sera pas capable de le faire, parce que ce qui se passe actuellement, c'est une droitisation de la coalition du centre-droit. Et je vais vous donner un exemple.
Allez-y.
La Ligue Nord, en 2013, c'est 4% des voix. Aujourd'hui, dans les intentions de vote, c'est 15%. Fratelli d'Italia, formation d'extrême droite, 2013, 1,5%. Aujourd'hui, 5 à 6%. Donc, il y a effectivement un basculement du centre-droit vers la droite. Et c'est pour ça que Berlusconi radicalise une partie de ses positions pour essayer de conserver le contact avec ses électeurs.
Et l'élection, c'est donc le 4 mars. On suit avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, évidemment, ce qui se passe tout à côté de chez nous. Marc Lazare, merci mille fois
merci
de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde avec les fêtards de Budapest qui empêchent les riverains de dormir et qui du coup vont voter. Faut-il fermer les bars? Florence Paracuello, c'est là aussi avec notamment la Colombie qui refuse et qui rechigne même devant des milliers de Vénézuéliens qui sont en train de quitter un pays exsangue. Eva Bétan est là. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Les films en VO, deux pour le prix d'un ce soir.
Oui, film américain, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, film palestinien, Wajib, l'invitation au mariage, parce que la France est formidable, on peut voir des films du monde entier, donc il faut parler de tous.
Très bien. Allez, à tout à l'heure, Jean-Marc Four, 18h55, Le Monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et vous, vous vous demandez si ça a un sens de reconstruire l'Irak?
Ouais, 30 milliards de promesses de dons aujourd'hui au Koweït pour reconstruire l'Irak, ça paraît beaucoup. En fait, c'est pas BZF et surtout, c'est pas le bon moment.
Allez, à tout à l'heure, on en parle ensemble. Juste à la fin d'Un jour dans le monde, voici Sparks, Distant and Big Enough for Both of Us.
Heartbeat, increasing heartbeat, you hear the thunder of stampede riders, elephants and jackie tigers. This town ain't big enough for the both of us. How do you tell me who's gonna live? Flying, domestic flying, and when the stewardess is near to what show me fear. Heartbeat, increasing heartbeat, you are a khaki colored bombardier, it's Hiroshima. This town ain't big enough for the both of us. How did they know who's gonna live? Daily, except for Sunday, you dive a limb to the cafe where you meet her each day. Heartbeat, increase in heartbeat, as 20 cannibals have pulled of you. They need their protein just like you do. This town ain't big enough for the both of us. How did they know who's gonna live?
Ça s'appelle This Town Ain't Big Enough for Both of Us et c'est signé Sparks. Mais un jour dans le monde est suffisamment grand pour nous deux, Florence Paracuelos.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmakio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Et sous les radars, Florence commence ce soir avec une crise des migrants, mais là très loin de l'Europe et aussi du Moyen-Orient. Alors on est en Colombie, Fabienne, et ce que vous entendez, ce sont des Colombiens qui manifestent contre des Vénézuéliens à Cúcuta, une ville frontalière entre les deux pays, qui voit passer le flot des Vénézuéliens qui fuient la misère et la faim. 220 000 ces trois derniers mois, 500 000 en tout en Colombie. Hier, le président colombien Santos a appelé à l'aide internationale pour gérer cet afflux de réfugiés. Le maire de Cúcuta, lui, se passerait bien de ces milliers de gens qui dorment dans les rues, les parcs et sur les terrains de sport de sa ville. Il veut les voir partir, d'autant que la situation économique de la région n'est pas mirifique. Hein. 16% de chômage à Cúcuta. Leur présence est un problème parce qu'ils nous prennent nos opportunités. Le peu de travail qu'il y a, on le leur donne. Parce que comme ils n'ont pas de papier, ils sont moins payés, moins que le minimum légal en Colombie.
À travers de la législation colombienne.
Voilà, la Colombie perturbée par la situation de son voisin qui s'enfonce dans la crise. On estime qu'il y aura 1 million de Vénézuéliens sur le territoire cet été. Alors, tout en renforçant les contrôles à ses frontières, le président colombien appelle sa population à la tolérance face aux victimes du dictateur Maduro. C'est lui, le leader vénézuélien, qui est responsable de la tragédie, dit Juan Manuel Santos. Il attend désormais l'aide de l'ONU qui a promis un soutien humanitaire pour faire face à ce mouvement de population. On ne choisit pas sa famille, Florence, on ne choisit pas ses parents. Oui, et dans la famille Nicholson, pas l'acteur, mais un autre, je demande le fils Kevin Nicholson, candidat républicain au Sénat dans le Wisconsin. Ses parents ne l'aideront pas à gagner cette élection en novembre prochain. Ça, non. Jugez plutôt. Ils ont fait un don de 2 700 $ chacun à sa principale adversaire, la démocrate Tammy Baldwin. Avec des parents comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Il se trouve que la famille Nicholson est historiquement démocrate. Le petit Kevin a baigné dans cette ambiance politique qu'il a rejetée après avoir servi dans les Marines en Irak en 2007. « Je ne suis pas né conservateur. C'est mon expérience qui m'a fait », dit Kevin Nicholson à la presse américaine. Officiellement, il ne s'étonne pas. Mes parents ont une vision du monde différente de la mienne. Je ne suis pas surpris. Ambiance dans cette famille. On ne sait pas si Hollywood ou Netflix sont sur le coup, mais ça ferait certainement un très bon scénario. Hein.
Allez, peut-être un général autocrate et aussi un peu fleur bleue, Florence.
Et oui, vous me voyez venir. C'est Saint-Valentin, Fabienne. Et en Thaïlande, le chef de la junte militaire au pouvoir, Prayut Chan-o-cha, gratifie depuis vendredi son peuple d'une chanson d'amour. C'est un officier qui la chante, mais c'est lui, le général, qui l'a écrite spécialement pour l'occasion. Sais-tu que ton sourire fait mon bonheur,
je
Fabienne?
Je sais, mais pas tout le monde.
C'est ce que dit la chanson qui passe à la radio depuis vendredi. Elle a été mise en ligne sur YouTube. Elle ne fait pas franchement le bonheur des Thaïlandais qui l'écoutent et qui l'étrient dans leurs commentaires. C'est très mauvais, il faut reconnaître. Cœur de diamant est la 4e chanson de Prayut Chan-o-cha. Ah ben. Depuis son putsch de 2014, il en avait inondé les ondes juste après avoir pris le pouvoir. Fera-t-il une nouvelle chanson pour les prochaines élections, théoriquement prévues pour l'automne, mais qui ne sont toujours pas confirmées?
Au fond, il aurait voulu être un artiste
et voilà.
Pour pouvoir faire
et
son
là,
numéro.
C'est...
et ouais, mais là, quand l'avion se pose sur la piste, c'est pas
c'est-à-dire
pareil.
Que l'artiste raté qui devient politique, ça ce n'est pas toujours gage de...
Non, mais vous savez l'inverse non plus, en règle générale. Allez Florence, on réfléchit à ça. On se retrouve demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
On s'entend plus moins fort. Et bienvenue à Budapest, la ville d'Europe qui attire en ce moment le plus de tourisme. Ils sont 3 500 000 et c'est deux fois plus qu'il y a 8 ans. Et apparemment, c'est pas pour les musées, c'est pas pour les bains, c'est pas pour le pont des chênes entre Buda et Pest, non. Le profil des touristes a bien changé. Aujourd'hui, on vient à Budapest pour ça. Pour les bars, pour la nuit. Bonsoir Florence Labruyère.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir.
Non, ça c'était Claude Brouillot qui nous disait bonsoir d'un coup, mais c'est pas lui qu'on voulait entendre. Peu importe, c'est Florence Labruyère qu'on va entendre tout de suite. Des bars ouverts la nuit, si bien que ce dimanche à Budapest, un référendum local est organisé. Voulez-vous que les bars ferment la nuit? Et Florence Labruyère, grâce à vous, on va comprendre de quoi on parle.
On a fait le Ruin Bar, le Mezda Bar aussi, et le Castro Bar, et le Metz. Ouais, enfin bon.
Quand on est en vacances à Budapest, comme Coril et Patricia, impossible de ne pas faire la tournée des Ruin Bar ou bars de ruines, des lieux nichés dans des maisons et des cours délabrés en plein centre de la capitale hongroise.
Je pense que c'est les quartiers branchés de Budapest ici.
C'est quand même assez populaire et on voit que les jeunes viennent tous ici, les jeunes budapestois, et donc c'est super sympa. Les derniers Ruin Bar, la musique était vraiment super. Vraiment, bonne qualité de musique et vraiment un endroit où sortir le soir, idéal.
Quels sont les prix des consommations?
C'est quand même beaucoup moins cher en France. On mange pour 8-9 euros quoi. Une bouteille d'eau c'est 1 euro.
La bière c'est combien?
La bière, 2 euros.
Il y a quelques années, ce quartier branché comptait seulement une trentaine de bars. Mais depuis que la mairie de l'arrondissement a autorisé les établissements à rester ouverts toute la nuit, leur nombre a explosé. On compte plus de 500 bars et boîtes de nuit dans ce petit périmètre de moins de 2 km². C'est un paradis pour les fêtards et un cauchemar pour les riverains comme Julie Sontag.
Surtout, il y a le bruit, donc c'est-à-dire que sous vos fenêtres, vous avez tous les soirs, dimanche inclus, des hordes de gens qui viennent, qui hurlent. Quand vous garez votre voiture, il faut donc être très vigilant de ne pas la garer en coin de rue, de ne pas la garer dans un bar, parce que vous faites aussi saccager vos rétroviseurs, tout ça. Ne parlons pas du fait que vous ne pouvez pas vous garer à partir de 17h, 18h, vous ne trouvez plus de place. Il n'y a pas de places qui sont réservées aux habitants. Les poubelles, c'est pas du tout géré, donc les rues sont tous les matins, les rues sont inondées d'ordures, de... Ne parlons pas des gens qui pissent sur les portails de chaque immeuble. Enfin, c'est... Même mes chaussures, mes semelles, ça me fait mal de marcher sur des trottoirs qui sont vraiment dégueulasses, quoi. Donc c'est quasiment que des nuisances.
Et il n'y a pas que les touristes qui se multiplient dans le quartier, comme le raconte Dori Garay, une jeune commerciale de 32 ans qui habite ici depuis son enfance.
Quand j'étais petite, on ne voyait jamais de rats. Mais maintenant qu'il y a beaucoup d'ordures, on les voit dans les cours d'immeubles. Parfois, ils rongent les câbles Internet et souvent, on n'a pas de connexion Internet à cause des rats.
Face à ces nuisances, que fait la municipalité? Le maire et les élus locaux n'ont pas souhaité répondre à la question. C'est une fonctionnaire, Sylvia Chuleug, qui explique que les autorités font beaucoup d'efforts.
La mairie consacre plus d'argent qu'avant au nettoyage des rues. Pendant la saison touristique, les forces de police sont renforcées et nous avons aussi des vigiles qui patrouillent. En plus, on a des experts qui surveillent le bruit. Ce système est en place depuis plusieurs années.
Des mesures insuffisantes selon les résidents qui se plaignent de ne jamais voir la police. En revanche, la délinquance est visible à tous les coins de rue, selon Julie Sontag.
Il y a donc maintenant des prostituées, vous avez des dealers à chaque coin de rue, enfin pas à chaque coin de rue, il y a des rues où c'est toutes les 5-10 mètres, qui sont en fait reliées avec des chauffeurs de taxi, c'est-à-dire que vous pouvez essayer la drogue que vous achetez, vous pouvez laisser dans les taxis. Donc il y a de plus en plus de délinquance dans une ville qui était vraiment très très sûre pendant des années. Quoi. Il n'y a jamais eu ici ni criminalité ni délinquance, enfin, c'est pas du tout comme Paris ou comme Londres, c'est vraiment dommage.
Direction le Simplakert, le premier bar bohème qui a lancé le quartier. Avec son décor de lampadaires à franges et de bicyclettes accrochées au plafond, c'est un lieu culte. Et aussi une entreprise rentable qui fait un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros par an, ce qui lui permet d'organiser des concerts gratuits tous les soirs et de lancer de jeunes musiciens. Bence Molnar, chargé de communication du Simpla. «
If the bars closed at midnight, we would lose around 80% of
our revenue. Si les bars fermaient à minuit, on perdrait 80% de notre chiffre d'affaires. Car on fait notre plus grosse recette entre 11h et 3h du matin. On serait contraint de renoncer à notre mission qui est de soutenir les artistes. Mais pas seulement un bar, mais un lieu de culture. C'est clair, le site là sera obligé de fermer.
So in short term, I would say Simpla would close.
Fermer à minuit, ce serait tuer la poule aux œufs d'or, s'inquiètent les propriétaires de bars. L'association des riverains, elle, prône la fermeture. À quelques jours du vote, elle mène une campagne active pour mobiliser les électeurs, car le référendum ne sera valide que si plus de 50% des habitants vont voter.
Comment Florence Labruyère à Budapest, dans les bars branchés et dans Un jour dans le monde sur France Inter. Super organism, everybody wants to be famous.
Feeling like a boss and staring at the stars. It doesn't matter the cost, cause everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over a bar. It doesn't matter the cost.
Everybody wants to be famous, nous dit Super Organism sur France Inter. 3,
2, 1,
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action.
Et le mercredi, à chaque fois sur le action, il y a un truc qui va pas. Ce mercredi, dans Un jour dans le monde, Eva Bétan nous raconte les films en VO du jour. On commence avec, avec votre chouchou un peu quand même. Le dernier film de... Alors dernier... C'est ce qu'il a dit en tout cas.
Bon, chouchou, l'acteur Daniel Day-Lewis.
Ouais. Il a dit que c'était le dernier, on n'est pas sûr, ce sera exactement le dernier. En tout cas, il est grand couturier dans les années 50. Le film s'appelle Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. C'est avec lui qu'il avait déjà tourné There Will Be Blood.
Alors, vous savez, il y a des films qui annoncent très très vite leur sujet, la plupart d'ailleurs. Mais dans celui-ci, vous allez découvrir de quoi il est vraiment, mais alors vraiment question, je dirais, dans le dernier tiers du film. Et c'est délicieux. Parce que du coup, il faut réexaminer le film à la lueur de ça. Alors, de grâce, ne laissez personne ne vous en dire trop, je ne vais rien vous dire d'ailleurs, au revoir. Ce n'est pas une histoire de coup de théâtre, c'est de la psychologie. Donc un grand couturier épouse une jeune serveuse. Film apparent, Pygmalion, vous avez compris le principe. Un côté Rebecca Hitchcock, la jeune femme arrive dans une grande maison où il y a une autre femme qui domine, c'est la sœur du couturier. Une description de l'artiste sur le mode « rien ne doit gêner mon génie ». Si sa femme pouvait être transparente, ce serait encore mieux. Le bruit qu'elle fait en mangeant les biscottes lui est insupportable.
Ah ben, ça on comprend un peu quand même.
L'idée d'un conflit, d'un mot de trop est impossible. Et il y a même des relents de psychanalyse. Enfin, il y a toutes sortes de choses dedans. Tout ça, je soupçonne un brin d'humour, d'humour froid d'ailleurs. Puis au bout d'un moment, on se dit, bon d'accord, c'est un peu long pour parler élégamment. pas élégamment d'ailleurs, ça patine un petit peu. C'est très beau, mais en même temps. Et puis, il y a des petites choses là qu'on décelait. Et puis on se dit, mais j'ai rêvé ou c'est vraiment ça? Et puis, elle va se faire prêter en fantôme ou elle va se réveiller? Et puis à un moment donné, oui. Et puis il se passe quelque chose. Et puis on se dit, est-ce qu'il voulait vraiment vivre dans cette vie aussi cadrée? Est-ce qu'être un couple, ça peut pas être extrêmement complexe et quelquefois extrêmement tordu? Paul Thomas Anderson.
Nous avons affaire à un personnage qui pense qu'il ne peut être amoureux que de quelqu'un qui le défie, que cela ne vaut pas le coup d'entamer une relation avec quelqu'un s'il n'y a pas du drame. Il entre donc dans cette relation avec elle en cherchant cela, et tant qu'il ne l'obtient pas, il n'est pas content. C'est comme un tigre qui poursuit un opossum, mais l'opossum se détourne. Et il n'y a pas de combat. Donc, quand il rencontre quelqu'un qui a du répondant, il est très content. Mais après, sa manière de faire est assez tordue. Il prétend qu'il n'est pas intéressé par le combat. Ça demande un sacré travail de faire cela. En fait, je pousse à l'extrême ce qui se produit en plus petit et en moins dramatique entre la plupart des hommes et des femmes. Dans la vie, c'est moins tragique. Mais si vous mettez cela dans un film, vous devez pousser la situation à l'extrême.
Donc même sous la torture, vous ne me direz pas
non. Mais je peux vous dire en revanche que c'est Corinne Pellissier qui avait rencontré Paul Thomas Anderson.
Allez Eva, avant de partir, vous voulez aussi nous parler d'une autre sortie de la semaine. C'est un film palestinien cette fois. Ça s'appelle Wajib, l'invitation au mariage. Et c'est signé Anne-Marie Jassy. On écoute la bande-annonce d'abord. Allez donc, film palestinien, Eva.
Alors, ce n'est pas parce qu'on voit peu de films palestiniens qu'on doit attendre d'un film qu'il vous dise tout de ce que c'est qu'être palestinien. Et la première qualité de ce film, c'est justement une forme de modestie. C'est une petite histoire, en apparence, qui tient son contrat, son temps mort, souvent très drôle, et qui dit en même temps pas mal de choses. Ça se passe en une seule journée à Nazareth. Quand on invite des gens à un mariage à Nazareth, la fille de la famille se marie, l'usage veut qu'on porte les cartons d'invitation en main propre à chacun. Une journée en voiture, le père et le fils, et on entre chez des gens. On remarque qu'il s'agit d'une classe moyenne aisée, éduquée, que les filles sont émancipées, l'une est avocate, que la mariée achète une robe super moulante. On voit qu'il y a des cérémonies de la période de Noël au sapin de Noël, on devine qu'on est chez des chrétiens, chez certains, chez d'autres on ne sait pas. Je n'ai jamais entendu le mot de Dieu dans ce film. Mais le sujet principal, c'est le duo père-fils. Le père, lui, est resté à Nazareth, il n'a pas bougé, il a élevé seul ses enfants. Le fils est architecte, il vit à Rome. Et le fils revient, ils sont tous les deux ensemble pour quelques jours pour le mariage, et on voit que le fils, il ne voit pas le même Nazareth que son père. Lui, il voit les poubelles, l'autre, il voit sa terre, et il juge son père qui est resté. Et quand on reste, on fait des compromis. Il va inviter un Israélien en mariage. Lui est plus raide. On voit le conflit des générations et on voit aussi la différence, la fracture qu'il y a entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Et c'est le père et le fils qui jouent un père et un fils dans le film. Il s'appelle Mohamed Bakri et Saleh Bakri.
Allez, signé Anne-Marie Jassir, oui. Wajib, l'invitation au mariage. Merci Eva.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. On parle d'Irak. Ce soir, 30 milliards de dollars. Donc, c'est la somme qui a été récoltée aujourd'hui après 3 jours de conférence à Koweït pour la reconstruction de ce pays. 15 années de guerre quasi ininterrompues, ça on le sait. Le pays qui a évidemment besoin de tout cet argent. Le problème, c'est que cette manne pourrait être une simple coquille vide, Jean-Marc. Et c'est votre monde à l'envers de ce soir. On peut même se demander à quoi ça sert finalement de reconstruire l'Irak.
Alors déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est souvent beaucoup plus efficace pour détruire que pour construire.
Plus rapide,
sur principe, évidemment, qu'il faut reconstruire l'Irak. Depuis le début de l'intervention américano-britannique en 2003, le chaos n'a pas cessé. Du coup, le chantier est colossal. Vous voulez des exemples? Il y en a à l'appel. Dans certaines parties de Bagdad, il n'y a ni eau, ni électricité, ni égout. En l'absence d'État central, les seuls quartiers à fonctionner correctement sont ceux contrôlés par les milices ou par les gangs. À Mossoul, au nord, il n'y a plus d'aéroport. À Ramadi, à l'ouest de Bagdad, les rues sont truffées de mines. Les chemins de fer n'existent plus. Seule la ligne Bagdad-Samara vient de ouvrir. Les hôpitaux sont en déshérence, plusieurs raffineries de pétrole sont hors service, des centaines de milliers de maisons individuelles sont détruites. On se résume, les chantiers ne manquent pas. Alors pendant ces 3 jours de conférence sur la reconstruction à Koweït, des dizaines de pays, près de 2000 entreprises étaient représentées. Bagdad espérait récolter 90 milliards de dollars. Résultat, 30 milliards, pas besoin d'être fort en maths pour comprendre, c'est quand même trois fois moins qu'espéré.
Alors pourquoi tout le monde hésite à donner ?
D'un côté, il y a les États et de l'autre, les entreprises. Alors on va commencer par les États. Déjà, on parle de 30 milliards, mais en fait, c'est moins. Exemple, le plus gros donateur, c'est la Grande-Bretagne, 10 milliards. Mais en fait, c'est 1 milliard par an sur 10 ans et encore avec des conditions à la clé. Les puissants voisins, les Saoudiens, les Qataris, donnent modestement 1 milliard. Les États-Unis ne donnent rien. C'est pourtant pas faute que leurs troupes aient mitraillé dans le secteur. La France, 1,5 milliard pour garantir l'an dernier un prêt du FMI. En fait, les États hésitent pour deux raisons. Ils ont d'autres chats à fouetter. L'Arabie Saoudite est accaparée par sa guerre au Yémen. Les États-Unis veulent se redéployer en Afghanistan, etc. Deux, la situation politique en Irak, c'est l'essentiel, n'est pas stabilisée. D'accord, il y a grosso modo une victoire militaire contre le groupe État islamique, mais c'est tout. Pour le reste, l'Irak est toujours dans le chaos politique avec une minorité sunnite marginalisée par la majorité chiite. Et tant que la situation politique est instable, l'argent de la reconstruction risque d'alimenter les luttes confessionnelles. Vous savez ce que disent les Baghdadis ? Ils disent « les brigands nous pillent au nom de la religion ».
Mais alors les entreprises, elles qui ont beaucoup
d'argent
à faire.
Eh ben oui, elles sentent bien qu'il y a de l'argent à faire. On est quand même dans un pays avec une élite qui en a plein les poches et en plus avec une manne pétrolière. En France, par exemple, des sociétés comme Thales, Total, Alstom, Veolia, Schneider Electric, Lafarge, etc. peuvent y trouver des marchés. Le problème, c'est que les risques sont multiples. La corruption généralisée, d'abord. On estime qu'elle avale de l'ordre de la moitié des investissements dans le pays. La moitié, c'est dingue. La sécurité ensuite, il reste ici et là des poches tenues par le groupe État islamique. Et puis il y a les milices religieuses, près d'une centaine dans le pays. Le manque de personnel qualifié, parce que de nombreux cadres ont fui, se sont réfugiés chez les voisins, dans le Golfe Persique en particulier. Sans compter, on le sait, que l'intérêt des entreprises privées n'est pas toujours de répondre aux besoins de services publics, écoles, hôpitaux ou adduction d'eau.
Et tout ça ne rend pas très optimiste.
Oui, ça rend même pessimiste, d'autant qu'il y a un précédent, c'est l'Afghanistan. Entre 2002 et 2012, il y a eu, tenez-vous bien, 6 conférences internationales sur la reconstruction de l'Afghanistan. À chaque fois, de beaux engagements financiers. Regardez, je vous ai apporté cet article d'archives, il date de 2008. Conférence à Paris, tenez, je vous le donne. 2008, Paris, ramdam, roulement de tambour, 20 milliards pour l'Afghanistan. 10 ans après, vous avez vu où nous en sommes en Afghanistan, le chaos total. Eh bien, on peut craindre la même chose pour l'Irak, que l'argent disparaisse comme dans le tonneau des Danaïdes. Et du coup, même cause qui produisent mêmes effets, violence, terrorisme. Donc non, désolé, ça ne rend pas optimiste ce soir.
Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers, dont un jour dans le monde, le 18-20 reste ouvert, restez avec nous.